Hier, une manifestation géante a eu lieu en Pologne contre l'interdiction quasi totale de l'interruption volontaire de grossesse. Déjà mercredi, les femmes s'étaient massivement mises en grève générale contre la décision du tribunal constitutionnel d'interdire les avortements en cas de malformation du fœtus. Et depuis le 22 octobre, les manifestations ne faiblissent pas. De l'autre côté du globe, aux États-Unis, lundi, la juge Amy Coney Barrett a été intronisée à la Cour suprême, la plus haute instance juridique des États-Unis, et de nombreuses protestations se sont élevées dans le pays contre cette nomination hautement symbolique, la juge ayant déjà clairement exprimé ses positions catholiques et défavorables au droit à l'avortement des femmes. Invitée de cette deuxième heure, Marie-Cécile Nave, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, vous êtes directrice de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, où vous supervisez l'Observatoire Genre et Géopolitique, et vous êtes l'autrice de livres sur Donald Trump, Trump, la revanche de l'homme blanc, d'une géopolitique des États-Unis. Vous venez de faire paraître chez Kalman Levy La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. On aurait pu trouver d'ailleurs dans ce livre peut-être la phrase de Simone de Beauvoir qu'on a en tête en entendant cette actualité en Pologne, aux États-Unis, mais il y en a d'ailleurs dans d'autres pays. N'oubliez jamais, disait Simone de Beauvoir, qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Vous feriez un lien entre ce qui est en train de se passer en Pologne et aux États-Unis ?
Oui, bien sûr, il y a un lien très fort. D'abord, c'est le même type de pouvoir qui est en place, c'est-à-dire un pouvoir qui est profondément antiféministe, mais aussi profondément nationaliste. Et d'ailleurs, les deux idées se rejoignent, puisqu'il y a non seulement la volonté de réduire, restreindre les droits des femmes, mais aussi des minorités LGBT, etc. Et il y a aussi une espèce de fantasmagorie que si on interdit aux femmes d'avorter, eh bien, la population blanche pourra continuer d'être la plus nombreuse, on pourra conjurer le multiculturalisme, conjurer l'immigration, etc. Et d'ailleurs, en Pologne, on entend des équivalents des phrases comme le grand remplacement, la peur de l'immigration, la peur des migrants qui viennent, qui fuient les guerres, etc. Et aux États-Unis, vous avez ça aussi, puisque, comme ça a été dit, précédemment dans votre émission tout à l'heure, les blancs d'origine européenne seront minoritaires d'ici 20 ans. Et donc pour une partie de la population, c'est une évolution qui est absolument intolérable. Mais par ailleurs, les droits des femmes, la limitation des droits des femmes interviennent à un moment aussi où il y a une peur de l'avenir, il y a une peur de la mondialisation, il y a une peur de la modernité d'une manière générale. Et ces pouvoirs, mais c'est la même chose en Hongrie, c'est la même chose au Brésil, et là on parle de démocratie, on n'est pas dans des états autocratiques ou dans d'autres types de régimes auxquels on pourrait s'attendre. On est en démocratie, ça veut dire qu'il y a quand même un accord, il y a peut-être une internationale antiféministe qui se renforce, et qu'on voit, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais qu'on voit avec cette déclaration de 32 pays récemment à Genève qui se sont mis d'accord pour lutter contre l'avortement.
Parlons-en maintenant parce qu'on en a très peu entendu parler en France, Marie-Cécile Nave. Hein. C'est une déclaration commune, dite consensus de Genève. Elle a été faite le 22 octobre. Les 32 pays en question comprennent les États-Unis, le Brésil, l'Égypte, la Hongrie, dont vous parliez à l'instant, mais ce n'est pas des tout petits pays non plus, qui font front contre l'interruption volontaire de grossesse et rappelle l'importance de la famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette déclaration commune ?
Alors c'est très intéressant parce que les États-Unis sont en tête de pont avec Alex Azar, le monsieur santé de l'administration Trump, on sait que Trump éloigne les États-Unis de toutes les organisations internationales, refuse le multilatéralisme, refuse la coopération internationale. Mais là, sur ce sujet, là, il y a un accord. Là, on se met d'accord. C'est un accord qui est symbolique, évidemment. Ça n'a pas valeur de traité ou aucune valeur juridique. Mais enfin, on voit que sur ce sujet-là, ils peuvent signer avec la Pologne, la Hongrie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte. Avec des arguments qui sont très intéressants par ailleurs, qui sont, disons, c'est pour le bien des femmes, c'est pour la santé des femmes. Donc on décide toujours pour le bien des femmes à leur place, sans prendre en compte vraiment quels sont leurs désirs de liberté, de choix, on décide à leur place. Et puis il y a le soutien à la famille traditionnelle, c'est beaucoup dit dans la déclaration et dans la vidéo qui a été mise sur Internet. la famille traditionnelle, les bases traditionnelles des sociétés. Donc on rejoint aussi ce fantasme identitaire, cette obsession identitaire de revenir, je sais pas, à une société, une sorte de passé mythifié où tout allait bien et où chacun était à sa place. Et donc oui, il y a une internationale antiféministe qui se renforce, qui est vraiment la gifle à MeToo. On s'attendait à un retour de bâton sur tous ces mouvements internationaux. Et si là, il y a une déclaration internationale, c'est pas par hasard. C'est parce que on voit que le féminisme, au niveau international, prend de l'ampleur, en tout cas, est de plus en plus visible. Il y a une accélération de l'histoire, une amplification de la géographie des féminismes, finalement, pas partout dans le monde, mais quand même dans de très nombreuses parties du monde. Et là, c'est la réponse. Et la réponse, elle est violente. Et ça, c'est sans doute que le début.
Alors, il y a eu quand même une réaction dans l'Union européenne, de la part de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatović, qui a dit éliminer les motifs de quasiment tous les avortements légaux en Pologne équivaut pratiquement à les interdire et à violer les droits de l'homme. Il faut quand même rappeler que sur 1100 cas d'interdiction volontaire de grossesse, enregistrés en 2019, 1074 étaient liés à une malformation de fœtus, donc c'est pour ça qu'on parle de quasi-interdiction. Et la décision, ajoute la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, se traduit en avortement clandestin ou pratiqué à l'étranger pour celles qui en ont les moyens et en ont davantage de souffrance chez les autres. Est-ce que vous avez entendu de la part de membres de l'Union européenne, Marie-Cécile Nave, une réaction à cette déclaration dite consensus de Genève du 22 octobre ?
Pas tellement, en tout cas, je l'ai pas vu passer dans la presse mainstream. Il y en a peut-être eu, mais ça n'a pas été beaucoup relayé. Et peut-être que ce type de loi, c'est même pas une loi. D'ailleurs, c'est une décision constitutionnelle. C'est-à-dire, il contourne le Parlement et misant sur le fait que la Covid va dissuader les gens d'aller manifester dans la rue. Bon, ça pour le coup, c'est raté parce que il y a des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui manifestent contre cette décision constitutionnelle. On voit toutes les limites, en fait, de la subsidiarité, du principe de subsidiarité sur certains sujets, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, ces questions-là sont laissées à la libre décision des États. Et peut-être que, comme le demandent beaucoup d'associations féministes, notamment en France, mais dans beaucoup d'autres pays aussi en Europe, ça devrait être une préoccupation propre à l'Union européenne. La question des droits des femmes est peut-être trop laissée à l'appréciation des États. Mais ce qu'on sait par ailleurs, c'est que l'interdiction de l'avortement n'a jamais fait baisser le taux d'avortement. Elle fait juste exploser le taux d'avortement clandestin. Les associations en Pologne pensent que ça passera de 100 000 à 200 000 par an, les avortements clandestins, avec évidemment une mise en danger des femmes, notamment des plus modestes, des plus vulnérables.
Je vous entends dire interdiction, je me rends compte que j'ai dit interdiction volontaire de grossesse au lieu d'interruption volontaire de grossesse. Bien évidemment, les auditeurs auront rectifié de même. Partons aux États-Unis, si vous le voulez bien, Marie-Cécile Nave, puisque cette semaine, la juge Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême et qu'elle-même a déclenché une série de manifestations en sa faveur et contre elle au sujet de l'avortement. Certains manifestants portaient des tuniques rouges et un bonnet blanc, comme dans la série La Servante Écarlate tirée du roman de Margaret Atwood. D'autres, la collerette blanche et la tunique noire de Ruth Bader Ginsburg, qui a remplacé la juge Coney Barrett. Pourquoi cette nomination est-elle aussi symbolique?
D'abord parce que Trump l'a fait alors que Ruth Bader Ginsburg n'est pas encore enterrée, n'est pas encore inhumée. Donc déjà dans le timing, il y a beaucoup de provocations. Et puis c'est vraiment l'anti-Ginsburg Barrett. Elle a d'ailleurs inspiré Margaret Atwood dans son roman. C'est l'anti-Ginsburg et c'est à la fois des gages donnés, pense-t-il, à un électorat féminin conservateur qui le fuit à grandes enjambées depuis qu'il a été élu. Et c'est peut-être d'ailleurs les femmes qui feront perdre Trump, parce que le gap des intentions de vote chez les femmes entre Trump et Biden atteint aujourd'hui 20 à 25 points au bénéfice de Biden, y compris chez les femmes à droite. Donc bon, il essaie de donner des gages aux femmes blanches. Et ensuite, parce que ce sont des promesses qu'il a faites aux ultra-catholiques et aux évangéliques, aux ultra de l'extrême droite, de la droite conservatrice, pour se maintenir au pouvoir, pour être élu et pour se maintenir au pouvoir. Et puis Trump, bon, c'est l'incarnation gens à tous les niveaux, hein, d'une masculinité hégémonique, pour reprendre la formule de Rewin Connell, c'est-à-dire dans l'agenda intérieur, dans l'agenda politique étrangère, mais aussi dans le style, dans la communication, dans les attitudes, dans la manière dont ils gouvernent. Et donc tout ceci fait système. Mais effectivement, l'arrêt de la Cour suprême de 1973 qui constitutionnalise le droit à l'avortement, l'arrêt Roe versus Wade, il risque d'être de plus en plus challengé, pas forcément attaqué de front par la Cour suprême qui maintenant aura 6 juges conservateurs contre 3 progressistes, mais qui peut être vidé de sa substance parce que plus de latitude sera donnée sans doute aux États fédérés qui sont très conservateurs et qui veulent limiter l'accès à l'avortement.
Qui ont commencé depuis 2019, 4 États ont adopté des lois extrêmement restrictives, l'Ohio, le Mississippi, le Kentucky, la Géorgie. Mmh. En Alabama, les législateurs veulent interdire, à de rares exceptions près, aux médecins de pratiquer des avortements sous peine de prison. Le Tennessee, le Missouri, la Caroline du Sud ou encore la Louisiane planchent sur des propositions de loi semblables à celles signées en Géorgie. Et c'est pour cette raison que les ultra-conservateurs espèrent porter le débat devant la Cour suprême. Vous diriez que le droit à l'avortement est vraiment menacé aux États-Unis, Marie-Cécile?
Oui, il est vraiment menacé. Après, ces lois dont vous avez parlé, elles ne vont pas tous jusqu'à la Cour suprême. Elles sont très souvent attaquées en justice parce que les associations de défense des droits des femmes les attaquent en justice. Parfois, ça s'arrête aux tribunaux des États, aux Cours suprêmes des États, aux tribunaux des États. Parfois, ça va jusqu'à la Cour suprême. Mais quand ça va très loin, la Cour suprême, même à majorité conservatrice ces dernières années, a dit non, c'est contraire au droit. Par exemple, interdire l'avortement au-delà de 6 semaines, ce genre de choses. Mais il y a quand même, c'est quand même très dissuasif chez les femmes parce qu'il y a un effet. Est-ce que c'est vraiment la loi? Où est-ce qu'on en est au niveau juridique, etc. Et puis il y a certaines cliniques qui sont dissuadées de continuer leurs activités parce qu'elles subissent des menaces, parce que les médecins se font assassiner aussi. Il y a des États comme le Mississippi ou d'autres qui n'ont plus qu'une seule clinique. Et donc pour les femmes les plus modestes, il faut faire des dizaines et des dizaines. Enfin, pour les femmes, il faut faire des dizaines et dizaines de kilomètres pour trouver une clinique. Et donc là encore, ça pénalise les femmes les plus modestes socio-économiquement.
Vous disiez que en ce moment, Donald Trump tâchait de donner des gages aux femmes parce qu'il sent qu'il est en train de perdre leur électorat. Selon un article du Wall Street Journal, Joe Biden serait soutenu aujourd'hui par 58% des femmes et 43% des hommes, alors que Donald Trump serait soutenu par 50% des hommes et seulement 35% des femmes. Il a tenu un discours il y a 3 jours à Lansing, dans le Michigan. Donald Trump, on l'écoute.
Et vous savez ce qu'il y a d'autre? Je reçois aussi vos maris. Ils veulent retourner au mari, non? Et nous les mettrons au travail, vos maris, et tout le monde le veut. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Donald Trump a bien fait les choses avec les femmes. Et ça va continuer parce que les femmes de banlieue, comme les autres, veulent de la sécurité. Elles veulent la loi et l'ordre, et elles doivent l'avoir. Et j'aime les femmes, je ne peux pas m'en empêcher, ce sont les meilleures. Je les aime bien plus que les hommes. Bien plus que les hommes.
Marie-Cécile Nave, est-ce que ça suffira?
Cet extrait tout à fait emblématique du discours de Trump vis-à-vis des femmes, et notamment les femmes blanches diplômées du supérieur qui vivent dans les banlieues résidentielles, c'est-à-dire les banlieues plutôt classe moyenne plus, qu'il a complètement perdu depuis les élections de mi-mandat de 2018. Et le discours qu'il leur donne, c'est « Avec moi, vous serez protégés de la mixité sociale et de la mixité raciale dans les banlieues, parce que à l'inverse de Joe Biden, je ne vais pas encourager des politiques de logement encourageant la mixité raciale, la mixité sociale. » Pour le dire autrement, mais il le dit dans des meetings aussi, il l'a dit lors des débats face à Joe Biden, les femmes blanches, vous n'avez rien à craindre de la criminalité noire, les noirs qui vont venir vous violer dans les banlieues, avec moi ça n'arrivera pas. Donc il mise uniquement vis-à-vis de cet électorat-là, comme si c'était un électorat monolithique et raciste. Sur la dynamique identitaire, visiblement ça ne prend pas, parce que la gestion, en particulier sa gestion de la Covid-19, a fini de lui aliéner une grande partie de l'électorat féminin.
Oui, parce que 865 000 femmes seraient sorties du marché du travail aux États-Unis avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire 4 fois plus que les hommes. Donc elles ont l'air d'être bien plus touchées par la crise du Covid. Marie-Cécile Nave est notre invitée ce matin. Il est 8h30 sur France Culture. C'était la revue de presse de la semaine par Ilan Malka. Et puisque vous parlez, Ilan, de ces pays qui se reconfinent, Allemagne, Irlande, Israël, on pourrait dire un mot qui rejoint la problématique de ce matin avec notre invitée Marie-Cécile Nave, autour de ces pays qui ont peut-être un peu mieux géré la crise de la Covid-19, puisque si on reprend, Marie-Cécile Nave, une étude britannique publiée par le Center for Economic Policy Research et le World Economic Forum, les pays dirigés par des femmes, à savoir Taïwan, Islande, Nouvelle-Zélande, Finlande, Danemark ou encore Allemagne, présentent, en tout cas présentés jusqu'à l'été, des résultats systématiquement et significativement meilleurs concernant la gestion de la crise, moins de morts, évolution plutôt contenue. Bon, alors ce sont deux chercheuses qui ont fait l'étude, mais ça n'enlève rien à ces résultats. Est-ce que l'espoir viendrait plus des femmes ?
Alors il faut faire attention à ne pas parler d'un pouvoir masculin versus un pouvoir féminin, ne pas essentialiser les femmes en disant par nature les femmes disons, sont plus empathiques, sont plus bienveillantes, sont plus ceci, sont plus cela, et les hommes ne le sont pas. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que dans les pays, et notamment chez les nationaux populistes, et Trump, Bolsonaro et d'autres, toujours en démocratie, la gestion de la Covid est désastreuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rejet de tout ce qui relève de la vulnérabilité, de la maladie, de l'attention à l'autre, de tout ce qui relève du care, de l'éthique du care, comme c'est une notion qui vient du féminisme d'ailleurs, l'éthique du care. Et au contraire, on est dans une valorisation de la prise de risque, du combat, une rhétorique très très dure, parfois très très guerrière. On le voit avec la gestion de la Covid par Trump et son refus du masque. Il se moque de Biden qui met un masque. Etc. Et à contrario, vous avez des pays comme, mais c'est vrai aussi de l'Allemagne, des pays nordiques, la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, qui est vraiment un personnage très intéressant à observer, ce sont des pays où il y a une plus grande, notamment les pays nordiques, une plus grande tradition de parité femmes-hommes. Donc déjà, on écoute plus les femmes dans ce qu'elles ont à dire sur la société, sur les politiques publiques. Or, les femmes, par leur expérience, par leur profession, souvent par leur rapport à la société civile, aux associations, elles savent qu'il faut faire attention aux plus fragiles, être dans la solidarité, être dans la bienveillance, c'est des choses importantes. Et Merkel, c'est quelqu'un qui est une scientifique, donc qui fait aussi beaucoup plus confiance à la science que, évidemment, qu'un Trump ou qu'un Bolsonaro ou que d'autres. Et il y a une proximité, un souci de proximité avec les citoyens et de faire participer aussi les citoyens à l'élaboration des politiques publiques qu'on trouve dans les pays nordiques et qu'on a trouvé chez Ardern en Nouvelle-Zélande, non seulement sur la Covid, mais aussi sur le combat contre les armes à feu, sur les questions de développement durable. Donc c'est une autre manière de gouverner. C'est un leadership qui est, je dirais, dégenré, qui est pas du tout viriliste, mais c'est une autre manière de gouverner, plus collaboratif, qui s'appuie sur la science, qui s'appuie sur les expertises de tous, qui écoute tout le monde, et c'est pas un pouvoir vertical qui décide tout seul.
Donc c'est pas parce qu'elles sont femmes, plus douces ou je ne sais quoi, vous le disiez tout à l'heure, mais parce qu'elles mettent en place un style de gouvernance en rupture, avec des politiques proactives et coordonnées, une bonne communication, plus collaboratif, dites-vous. D'ailleurs, vous faites une définition de ce style de gouvernance en rupture dans votre ouvrage La démocratie féministe, réinventer le pouvoir. Et vous donnez un exemple qui est intéressant, puisque vous la citez, parlons-en, de Jacinda Ardern. Vous donnez un exemple dans la réaction de Jacinda Ardern, donc en Nouvelle-Zélande, après l'attentat de Christchurch en 2019.
Oui, elle a refusé la rhétorique belliqueuse, elle a refusé de nommer le terroriste, et elle a tout de suite voulu associer l'opposition à la mise en place d'une nouvelle législation limitant drastiquement le libre port d'armes, et en associant la population, en invitant la population à ramener les armes à feu, les armes d'assaut qui peuvent exister dans la population, à les ramener aux autorités. Donc tout de suite une politique de coopération, d'unité nationale et non pas d'opposition, de stigmatisation peut-être de certaines parties de la population.
Avec un discours très combatif pour autant.
Avec un discours très combatif, c'est pas du tout un discours doux ou gentil, c'est vraiment un leadership qui est combatif, qui n'est pas dans la stigmatisation, par exemple, des musulmans, mais qui dit nous allons avoir une politique dure et intransigeante. Et puis ça fonctionne, puisqu'elle est réélue brillamment. Donc il y a quand même un écho un écho dans ces, dans, auprès de ses concitoyens.
On pourrait aller au Chili également, Marie-Cécile Nave, où une forte majorité de Chiliens a approuvé dimanche lors d'un référendum l'idée de remplacer la constitution héritée de l'ère Pinochet. Et il se trouve que les féministes ont joué un rôle considérable dans ce mouvement social qui a conduit au processus constitutionnel. En fait, dans la démocratie féministe, vous nous expliquez qu'aujourd'hui, deux visions du monde s'affrontent, s'opposent.
Oui, il y a d'un côté un pouvoir prédateur sur les autres et sur la planète, qui est incarné par les nationaux populistes, Trump, Bolsonaro, Orban et d'autres. Mais là, on parle juste des démocraties. Il y a évidemment d'autres types, d'autres types de pouvoir, des dictatures, des régimes autocratiques, etc. Et bon, je me suis concentrée sur les démocraties. Et puis, vous avez d'autres manières de voir le monde qui sont soit incarnées par des figures de la société civile, soit incarnées par des gens qui sont au pouvoir ou qui aspirent à venir au pouvoir et qui ont un regard complètement différent sur, sur les autres, sur la nature, sur la planète, sur les minorités, sur les femmes, qui sont incarnées par, on l'a dit, Ardern, mais Jacinda Ardern, je l'ai dit, Greta Thunberg, des gens comme Justin Trudeau, le Premier ministre.
Ça n'est pas que des femmes, vous le rappelez.
Ce n'est pas que des femmes. Justin Trudeau, Premier ministre canadien. Et je trouve que la campagne de Joe Biden, depuis plusieurs mois, a pris cette dynamique-là. Évidemment, il est dans une opposition à, il est dans une opposition à Trump, mais il y a encore un an ou deux ans, on ne voyait pas forcément Biden être dans cette dynamique-là, de faire une campagne axée sur la bienveillance, la solidarité, l'unité nationale, l'attention aux femmes, avec la promesse de mettre des femmes à des postes importants de représentation. Ça, c'est important, c'est-à-dire s'il n'y a pas de femmes qui au pouvoir, si c'est juste un pouvoir masculin, ça entretient l'entre-soi, ça entretient une seule vision du monde qui, et on se prive de regard, on se prive d'expérience, on se prive d'expertise. Et vous parliez du Chili, mais on pourrait aussi parler aujourd'hui de la Biélorussie, du Liban, du Soudan, du carré féministe dans le Irak, en Algérie, on ne peut pas parler de tout évidemment, mais au Chili c'est très intéressant parce que les femmes ont été en première ligne dans le combat pour une nouvelle constitution, en partant de leurs revendications féministes, et il y a eu un effet d'entraînement pour des revendications plus larges, et elles ont été vraiment, comme on dit en sens social, des entrepreneuses d'unité, c'est-à-dire des revendications vraiment universelles contre toutes les formes d'inégalité sociale, économique, genrée, raciale au Chili, et on voit que le féminisme est porteur d'universalité. C'est vraiment la volonté, une dynamique qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, d'un universel qui est plus inclusif et qui est porté par le féminisme.
Enfin, tout à l'heure, on parlait de l'international anti-féministe, oui, avec cette déclaration de 32 pays. Donc, à l'envers, une internationale féministe serait en marche
On en a l'impression, évidemment, toutes les régions du monde ne sont pas concernées parce que dans les régimes où vous avez l'interdiction de manifester, où les droits des femmes sont complètement négligés, voire criminalisés, dans les textes, c'est évidemment plus difficile, mais enfin, on voit quand même que ça traverse les frontières. Et on a parlé de MeToo, évidemment, on a beaucoup parlé de MeToo, c'est plutôt les pays du Nord, mais l'Amérique latine est un terrain d'observation extrêmement intéressant, puisque les grandes manifestations féministes arrivent avant MeToo, en Argentine, etc. Et il y a une grande tradition aussi dans ces pays-là. C'est plus visible, c'est plus médiatisé, c'est peut-être plus pris au sérieux aussi par les opposants à ces droits. Et c'est des gens qui ont peur, en fait, de non seulement que les femmes accèdent à des droits, de disposer de leur corps, de travailler, d'avoir les mêmes droits que les hommes, mais d'exister tout simplement dans l'espace public. Et donc ça fait peur, et le combat, on parlait de face à face, le face à face il est là, il n'en est sans doute qu'au début.
Mais il y a peut-être aussi une difficulté à voir ce face à face avec deux monolithes, deux blocs, Marie-Cécile Nave, puisque la démocratie féministe peut poser des questions, on le voit bien d'ailleurs, le féminisme n'existe plus. Il y a des féminismes, des façons d'envisager les choses et pas une seule, sans vouloir l'idéaliser. Donc, à quoi ressemblerait cette démocratie féministe, selon vous, dans la mesure où vous identifiez deux blocs, me semble-t-il?
Oui, oui, il ne faut pas simplifier à outrance. Moi, je me suis centrée là-dessus, tout en précisant de nombreux passages dans le livre que c'était une manière de voir les choses et que le féminisme semblait une réponse possible parmi d'autres aux crises, les crises démocratiques, sanitaires, environnementales, les crises socio-économiques. Et je crois que le féminisme figure parmi les réponses aux crises sur un plan politique, sur un plan épistémologique, parce qu'il apporte un autre regard plus ouvert, plus divers sur la complexité du monde. Il s'appuie sur la science. Il y a une très forte tradition scientifique dans le féminisme avec les études de genre qui permettent de lever certains angles morts dans l'analyse du réel au niveau national et international. C'est on mise sur la participation citoyenne. C'est recréer aussi les conditions d'un débat démocratique serein pour combattre les polémiques bruyantes et stériles auxquelles nous sommes confrontés tous les jours.
C'est, vous le dites, regagner la bataille culturelle de l'émancipation et de la liberté, en un mot, Marie-Cécile.
Oui, c'est la liberté de choix pour toutes et pour toutes.
Bon, que cela ne nous empêche pas d'écouter ce week-end de nombreuses émissions consacrées aux États-Unis sur France Culture, par exemple, et je le dis avec le sourire, Plan Large, qui sera consacré à 14h à la figure de Sylvester Stallone, surtout. Merci beaucoup, Marie-Cécile Nave, pour cette présentation rapide de la démocratie féministe à lire donc chez Kalman Levy, mais surtout vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Nous y entrons à 8h45 sur France Culture par l'idée culture présentée par Matteo Caranta.